Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. La Banque Centrale Européenne change de tête. Super Mario cède la place à la Reine Christine. Depuis hier, la plus méconnue des institutions européennes et à maint égard la plus puissante, a une nouvelle patronne. Quittant le Fonds monétaire et Washington, Christine Lagarde s'installe donc à Francfort dans le bureau occupé pendant 8 ans par Mario Draghi, le Super Mario qui a réussi à sauver la devise européenne menacée par la crise des dettes souveraines et à maintenir la Grèce dans l'Union. Changement de style, sûrement, la française est aussi charmeuse que l'italien se montrait taciturne. Changement de méthode, sans doute, plus collective, mais faut-il s'attendre à un changement de politique? Traditionnellement écartelée entre la rigueur germanique et la souplesse latine, la Banque centrale doit affronter des défis nouveaux sans que le vice de forme originel en ait été corrigé. Les 19 pays membres de la zone euro ont bien en commun une devise et donc une politique monétaire, mais sans union bancaire et budgétaire. L'édifice européen est incomplet. Quels seront donc les objectifs de la nouvelle banquière centrale? Quelle marge de manœuvre en plein ralentissement économique avec l'ombre d'une récession planant sur l'Allemagne? Comment combler les fractures entre le nord et le sud de la zone euro, aux cultures si différentes, pour stimuler la croissance? Faut-il mieux éclairer les opinions publiques, agir différemment pour accélérer la transition écologique? Enfin, jusqu'où pousser vers l'union bancaire, autrement dit, faire surtout de la politique? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Catherine Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste des questions européennes. Jésabelle Coupet-Soubéran, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et conseillère éditoriale au CEPI. Par téléphone, et je l'en remercie, Georges Papakonstantinou, vous êtes professeur à l'Institut universitaire européen de Florence et ancien ministre des Finances grec. Et enfin, Guillaume Duval, éditorialiste à Alternative économique, conseiller au Conseil économique, social et environnemental. Catherine, je commence avec vous pour que vous nous aidiez à situer la BCE dans l'architecture institutionnelle de l'Union européenne.
Alors, la Banque Centrale Européenne a été créée lorsqu'on a décidé, du moins un certain nombre de pays de l'Union Européenne ont décidé de créer l'euro. Cette Banque Centrale Européenne a plusieurs caractéristiques. Elle est indépendante, ça c'est quelque chose qui est commun à toutes les grandes banques centrales des grands pays, si on pense en particulier aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Mais elle a une particularité, elle n'est pas totalement une banque centrale dans le sens où elle n'a pas le rôle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit, en principe, de financer l'endettement des États. Donc ça, c'est un défaut qu'on a souvent reproché à la Banque Centrale Européenne. Mais on a vu avec Mario Draghi, depuis 2012, effectivement, ce fameux discours où il a dit « la Banque Centrale se tient prête à faire tout ce qu'il faut pour sauver l'euro ».
Donc le fameux « whatever it takes ».
Exactement.
Qui a suffi à rassurer les marchés, comme quoi, en quelques mots, ces banquiers centraux ont une forme de magie qui peut agir dans un sens ou dans un autre, et par le verbe.
Oui, tout à fait. Là, ça a été particulièrement frappant avec cet exemple du discours de Mario Draghi en juillet 2012. Alors ce discours a été très bien interprété par les marchés immédiatement comme un signe qui était rassurant sur la survie de l'euro. Mais il n'y a pas eu que le discours, il y a eu des actes derrière. Et en particulier, Mario Draghi a, d'une certaine façon, contourné le mandat de la Banque Centrale Européenne en permettant à celle-ci d'acheter des titres publics.
Alors ce mandat, il est assez concentré en fait, le mandat proprement dit.
Oui, la Banque Centrale Européenne a un mandat simple qui est de maintenir une inflation stable dans la zone euro. Et c'est à elle de fixer ce qu'on appelle l'inflation, qui est l'inflation adaptée pour la zone euro. Et la Banque Centrale Européenne, au début, à sa création, a fixé comme cible 2% tout au plus.
Et donc 2% entendu comme de l'huile dans les rouages, parce que quand on dit inflation, en général, on a peur d'une inflation exponentielle. Là, non. Il faut un peu d'inflation, sinon la machine se grippe.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dire, du moins il y a 20 ans, pour nos économies européennes, on disait que le rythme moyen de la croissance de l'activité était de 2% à peu près en volume. Et avec une inflation de 2%, ça permettait d'avoir une croissance en valeur de 4%. Et c'était quelque chose qui était jugé comme un rythme soutenable et tout à fait adapté pour les grandes économies. Et donc, en fait, la Banque Centrale Européenne a fixé cette cible de 2% au plus. Et on lui a beaucoup reproché au début d'avoir un objectif asymétrique en disant qu'elle ne voudrait surtout pas que l'inflation dépasse 2%, que c'était un maximum. Et on a vu très rapidement, en fait, d'autant plus quand l'économie de la zone euro s'est enfoncée dans la récession, qu'on avait très peu d'inflation dans la zone euro. Et aujourd'hui encore, c'est un des problèmes de la zone euro où on a une inflation qui n'est qu'à 1%. Alors au cours du temps, là aussi la Banque Centrale Européenne a quand même un peu adapté son objectif en disant une inflation proche de 2%, mais elle n'a jamais réussi à atteindre cette cible de 2% en fait. C'est un des reproches qu'on peut lui faire aujourd'hui.
Jézabel Coupet-Souberan, le camp Super Mario, pour reprendre donc le titre dont il a été gratifié, Mario Draghi, qui avait fait donc une carrière tout à fait remarquable et classique en Italie, d'abord à la Banque Centrale d'Italie, ensuite à la Banque Mondiale, ensuite au Fonds Monétaire me semble-t-il, ensuite chez Goldman Sachs. Il est donc nommé en 2011, il prend la succession du français Jean-Claude Trichet. Et en 2011, tout le problème, c'est d'éviter que la zone euro ne soit véritablement noyée par la crise des subprimes, la crise des dettes souveraines. Alors expliquez-nous ça.
Alors effectivement, Mario Draghi débute son mandat en 2011 dans un contexte extrêmement difficile pour la zone euro, parce que nous sommes toujours en pleine crise financière et dans le cas de la zone euro, en fait, ça dégénère en crise des dettes souveraines. Alors pourquoi cela ? Parce que les États des pays de la zone euro ont apporté leur soutien aux banques en difficulté pendant la crise financière et en prenant en partie en charge ce risque bancaire, eh bien, ils se sont mis en difficulté. Les agences de notation, les investisseurs ont commencé à douter de la capacité de certains États eux-mêmes à ne pas faire défaut auprès des investisseurs qui avaient acheté leurs dettes. Alors, certains États se retrouvent ainsi en très grande difficulté, dont bien sûr la Grèce. On est dans un formidable cercle vicieux à ce moment-là, où le risque bancaire entraîne le risque souverain, qui lui-même entraîne à nouveau du risque bancaire, fait grossir le risque bancaire, parce que les banques détiennent des titres de dette publique, elles voient la valeur de ces titres fondre à leur bilan, donc les bilans bancaires se dégradent, et ce qui se dégrade dans le même temps, c'est la capacité des États à les sauver. Donc, on est dans ce contexte-là. Mario Draghi, vous l'avez dit, a des mots, des mots que certains vont trouver magiques. En tout cas, il a l'oreille des marchés parce que c'est quelqu'un. Vous avez rappelé son parcours. Donc, d'abord, c'est un prof d'université. Ensuite, il fait un parcours au Trésor italien. Puis, il fait un passage de 3 années chez Goldman Sachs, qui va sans doute lui apprendre à bien s'exprimer vis-à-vis des marchés. Donc, il a l'oreille des marchés et quand il va rassurer les marchés en leur disant: ne vous inquiétez pas, la Banque Centrale Européenne sera là pour racheter les titres de dette publique autant qu'il le faudra, aussi longtemps qu'il le faudra. Bon, ben là, effectivement, il trouve à peu près les mots magiques pour calmer le jeu et ça évite vraisemblablement un éclatement de la zone euro. Donc on peut au moins le gratifier de cela et on peut considérer que par cette action, il a évité à la zone euro de s'enfoncer dans une situation macroéconomique assez catastrophique de déflation. Alors cela étant, est-ce que on peut pour autant parler de Super Mario ? C'est pas si sûr si ensuite on s'applique à faire un peu le bilan.
Mais restons quand même à ce moment-là où en fait Mario Draghi arrive à assouplir le mandat de la Banque Centrale Européenne en mettant en place ces outils, si j'ai bien compris, qui est le rachat massif de dettes, ce que les experts dont vous êtes appellent le quantitative easing, le QE, donc par ces deux lettres. Et on a calculé, semble-t-il, que cette méthode a permis de préserver ou de garantir à peu près 0,75 points de croissance au sein de la zone euro. Donc ça a été quand même un moyen, en tout cas d'empêcher la catastrophe, et aussi d'acheter les titres pour des sommes alors faramineuses pour le commun des mortels, hein, 2600 milliards d'euros. Il y a eu aussi plusieurs baisses de taux directeurs. Donc tout cela veut dire que avec une sobriété de comportement et de langage, Draghi en fait a tenu la boutique de telle manière que l'effet rétroactif de la grande crise financière de 2007-2008 a été absorbé en quelque sorte dans la zone euro.
Alors pour revenir sur ces différents éléments, disons que une banque centrale, la BCE mais d'autres, agit aussi bien avec des mots qu'avec des actes. Et donc finalement, si vous voulez, Mario Draghi a surtout agi en 2012 avec des mots, parce que le quantitative easing, ça vient beaucoup plus tard. Le quantitative easing dans la zone euro, ça ne vient qu'à partir de 2015. Alors, entre-temps, se mettent en place des dispositifs pour promettre en quelque sorte qu'en cas de problème, eh bien, la Banque Centrale Européenne sera là pour acheter massivement des titres de dette publique. Mais le vrai programme d'achat massif de titres, il débute il est annoncé au mois de janvier 2015, il débute à partir du mois de mars 2015, et à partir de là, effectivement, la Banque Centrale Européenne va procéder chaque mois à des achats de titres publics, essentiellement, à hauteur de 60 milliards d'euros par mois. Ça va monter jusqu'à 80 milliards quelques temps plus tard, et puis ensuite ça va diminuer gentiment. Alors tout ça fait que effectivement, la Banque Centrale Européenne a ainsi un peu élargi son mandat, parce que normalement, Catherine l'a rappelé, la Banque Centrale Européenne n'a absolument pas le droit d'acheter directement des titres publics sur les marchés primaires, c'est-à-dire sur les compartiments de marché où ces titres sont émis. En revanche, elle a le droit ainsi, eh bien, d'en acheter sur les marchés où on se revend ces titres, donc sur les compartiments de marché secondaires. Petite précision peut-être, pourquoi est-ce que le quantitative easing arrive si tard dans la zone euro, alors que aux États-Unis, la Fed a procédé à ce type d'opération très tôt, juste après la crise. Eh bien, c'est parce que au fond, dans la zone euro, on se représente le système financier comme un système financier qui repose bien davantage sur les banques que sur les marchés. Et donc, la Banque centrale a réagi à la crise dans un premier temps en assouplissant considérablement les conditions de refinancement des banques. Et Mario Draghi, ainsi que tous les membres de la BCE, pensaient que
ça suffirait.
Ils pensaient que ça suffirait, que les banques prendraient ainsi le relais, répercuteraient, si vous voulez, ces conditions avantageuses de leur refinancement sur le marché du crédit. Ce n'est pas ce qui s'est passé, sans doute pour plusieurs raisons.
Et de façon différente d'un pays à l'autre.
De façon différente d'un pays à l'autre, d'une manière un peu générale, ce que l'on peut dire, c'est que les banques qui étaient censées être le canal de transmission de la politique monétaire en zone euro ont largement modifié leur modèle d'activité au cours des dernières décennies, et peut-être que la Banque Centrale Européenne n'a pas mesuré ce changement-là. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui ne sont plus autant tournées qu'elles pouvaient l'être il y a encore 20 ou 30 ans, plus autant tournées vers le financement des entreprises, et en particulier le financement des petites et moyennes entreprises.
C'est bien d'ailleurs ce qu'on leur reproche continuellement et surtout en France. Je vous propose d'entendre maintenant un praticien en quelque sorte. Georges Papakonstantinou, bonjour. Vous étiez Le ministre des Finances de la Grèce, à une période particulièrement difficile, donc vous étiez en poste jusqu'en 2011, c'était encore l'époque donc de Jean-Claude Trichet à la tête de la BCE. Quelle est votre analyse de l'évolution du rôle de la Banque centrale et singulièrement vis-à-vis de votre propre pays, dont on sait à quel point le prix à payer pour rester dans l'Union a été élevé et particulièrement dur pour vos compatriotes?
Bonjour. Oui, effectivement, la Banque Centrale Européenne a évolué pendant la crise, mais elle a évolué dès le début. Parce qu'il faut se souvenir que même en 2010, après la crise grecque et après le premier programme de soutien pour la Grèce, il y a eu un achat par la Banque Centrale Européenne des bons, des titres de dette publique dans le marché secondaire qui a aidé. Mais c'est vrai que pendant le mandat de Jean-Claude Trichet, la Banque Centrale Européenne était beaucoup plus conservatrice. On se souvient toujours qu'elle a élevé les taux d'intérêt à un moment donné en milieu de la crise, ce qui était, en regardant, ils se sont plantés effectivement sur le timing. Mais plus que ça, les marchés voyaient bien que la banque ne voulait pas utiliser tous les moyens qu'elle avait dans son dispositif. Et quand on a le changement à la fin de 2011 entre Jean-Claude Trichet et Mario Draghi, on voit bien que c'est un changement de ton. Il y a une attitude différente, par exemple, vis-à-vis la restructuration de la dette grecque, à laquelle Jean-Claude Trichet était complètement opposé, mais Draghi ne l'était pas, était beaucoup plus prêt à aller dans cette direction. Je me souviens d'avoir une discussion avec lui en 2011, avant la succession, mais quand son nom était déjà... c'était clair qu'il allait succéder Jean-Claude Trichet, où il avait une position plus différente. Bien sûr, il était trop diplomate pour la dire très clairement, mais ce n'était pas l'attitude qui disait que on ne peut pas avoir une restructuration de la dette parce qu'il y aura un effet domino. Donc on arrive en 2012 et donc il y a un ton qui est différent. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que la grande différence entre 2010 et 2012, c'est que aussi les États ont mis en place un dispositif qui aide la Banque centrale à pouvoir avoir ce genre d'impact sur les marchés. Parce que si les mêmes mots étaient énoncés, le fameux « whatever it takes », oui, qui est d'ailleurs le titre de mon livre qui vient de paraître, si les mêmes mots étaient énoncés il y a deux ans avant, je doute qu'ils auraient le même impact qu'ils ont en 2012. Donc, il y a un changement de ton, mais il y a aussi un personnage différent, et les marchés le voient très bien. Il y a un volontarisme qui n'était pas là avant, mais il y a aussi un dispositif institutionnel de l'Europe de l'Union européenne, par exemple avec le mécanisme européen de stabilité qui est là et que les marchés voient que les pays européens sont prêts à faire un boulot qu'ils n'étaient pas prêts à faire il y a deux ans avant.
Mais cela veut dire aussi, Georges Papakonstantinou, que la personnalité du président ou en l'occurrence de la présidente de la Banque Centrale Européenne peut faire la différence. Donc comment voyez-vous maintenant Christine Lagarde dans ce rôle, et à un moment où la conjoncture économique au sein de la zone euro est franchement préoccupante, hein, ralentissement partout et même en Allemagne un risque de récession.
Le parcours de Christine Lagarde est un parcours de ministre, bien sûr. On était dans le même Eurogroupe dans cette période assez dramatique pour mon pays, mais aussi pour l'Union et pour l'Eurozone. Bien sûr, après, aux têtes du FMI, dans une période où le fonds a revu plusieurs de ses idées et a évolué aussi. Et donc, elle arrive avec tous ses bagages, mais donc... ayant vu de très près toute la crise européenne, je pense qu'elle veut continuer dans la même direction que Mario Draghi. Elle n'apporte pas le même background que lui, bancaire, mais elle apporte une sensibilité politique et une possibilité de créer un consensus là où, en ce moment, on a peut-être un problème. Parce que c'est clair que, en voyant les dernières décisions de la Banque centrale, les décisions prises il y a quelques semaines, qu'il y a à peu près 10 membres qui s'opposent à des décisions qui emporte le mandat jusqu'à un peu plus loin. Mmh. Et là, Madame Lagarde doit, elle sera forcée de trouver ce nouveau consensus et peut-être elle pourra emmener plus près les pays comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme la Finlande, qui sont plutôt, comme les Pays-Bas, qui sont plutôt opposés à la BCE de continuer dans cette direction qu'a commencé Mario Draghi.
Merci beaucoup, merci Georges d'avoir été en direct par téléphone avec nous. Et partons maintenant pour Genève, où vous êtes Mathilde Lemoine, bonjour. Je rappelle que vous enseignez à Sciences Po Paris, vous êtes chef économiste du groupe Edmond Rothschild. Les mesures auxquelles Georges Papakonstantinou faisait allusion à l'instant, ce sont bien toujours, c'est la méthode mise en place par Draghi et semble-t-il une méthode à laquelle il n'a pas assigné de fin dans le temps, c'est-à-dire des rachats massifs de dettes pour continuer à aider, semble-t-il, les économies de la zone euro.
Effectivement, Christine Lagarde a déjà dit qu'elle allait s'inscrire dans cette politique monétaire et que elle ne souhaitait pas avoir une politique monétaire plus restrictive, c'est-à-dire éventuellement s'emparer de remonter les taux d'intérêt, mais d'arrêter les achats de titres ou d'arrêter les réinvestissements d'achats de titres. Il y a plusieurs mesures qui sont assez techniques, qui sont de nature justement à faire en sorte que les taux d'emprunt de court terme soient faibles, mais aussi les taux de long terme. Je crois que c'est ça qui est très important. Et donc ça a une influence sur le taux d'emprunt immobilier. Mais on voit bien qu'au-delà de la question des personnes que vous avez évoquées et de l'expertise, je crois qu'il va falloir que Christine Lagarde mette tout son poids dans la balance pour demander une meilleure évaluation de l'impact de la politique monétaire telle qu'elle est menée jusqu'à présent. Parce que on insiste beaucoup sur les points de croissance qu'ont permis de générer la politique monétaire, mais on insiste moins sur les éventuels effets pervers. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de théorie, puisque dans les manuels, jusqu'à présent, l'éventualité même d'un taux négatif n'était pas inscrite. Donc on n'a pas de théorie, on n'a pas de précédent historique. Et donc, je crois qu'il va falloir quand même aller un peu plus loin, puisque on voit bien que les taux négatifs changent le rapport au temps.
Alors, arrêtons-nous une seconde, parce que pour vous, c'est une notion très familière, mais pas pour le commun des mortels. Et donc, le taux négatif, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui ?
Ça veut dire, en fait, normalement, quand vous empruntez pour acheter un appartement, vous payez un intérêt, et là, c'est la banque qui vous paye un intérêt. Donc, c'est pour stimuler votre envie d'emprunter, même si l'environnement économique vous paraît incertain ou voire même inquiétant. Donc c'est cette idée que en fait on vous pousse au maximum à consommer et à emprunter sans que vous ayez plus la moindre envie de renoncer à des plaisirs immédiats pour le futur. Si vous voulez, c'est une notion qui dépasse un peu l'économique et philosophique, voire aussi religieuse, mais qui, je crois, peut avoir des conséquences dans le rapport au temps que la société peut avoir. Et il me semblerait utile, en tout cas, de poser la question des conséquences que ça peut avoir. Alors, il y a un autre effet aussi, vous l'avez souligné, c'était que la Banque Centrale Européenne achetait des obligations d'État, mais aussi des obligations d'entreprise. Et évidemment, elle n'achète pas le même montant en fonction des entreprises.
Donc, elle n'achète qu'aux très grosses.
Aux très grosses, principalement, on avait réalisé une étude assez fouillée pour montrer que ces achats étaient effectivement orientés vers les grandes entreprises qui faisaient de l'infrastructure ou de l'énergie en Europe et peu, par exemple, vers les entreprises technologiques. Donc là aussi, ça serait intéressant de mieux comprendre quels peuvent être les biais ou les effets pervers que cette politique qui a, dans un premier temps, des effets très positifs, positif peut avoir sur justement le fonctionnement d'économie à moyen terme. Et est-ce que ça pèse pas sur la croissance future? Et est-ce que ça n'est pas contradictoire avec la volonté affichée des gouvernements de aller vers une transition énergétique et aussi vers justement un financement des entreprises de nouvelles technologies? Donc je crois que Christine Lagarde, au-delà de pouvoir réconcilier des positions qui ont semblé plus difficilement réconciliables lors des dernières réunions du Conseil des gouverneurs, va devoir aussi mettre sur la table des évaluations un peu plus sérieuses des conséquences de la politique monétaire qui est en train d'être menée.
Mathilde, restez en ligne quelques minutes encore, si vous le pouvez. Je voudrais vous demander, Catherine Mathieu, oui, les dissensions auxquelles Mathilde Lemoine faisait allusion sont, et c'est un classique du genre, entre l'Allemagne d'un côté et la France, l'Italie de l'autre, et je crois que donc le conseil de la Banque Centrale Européenne, il y a les 19 gouverneurs des banques centrales des États membres et 6 membres du directoire, et je crois que une Allemande qui était membre du directoire a claqué la porte avec une certaine vigueur il y a quelques semaines. Donc il y a des divisions qui sont apparus surtout à partir du moment où on savait que Draghi s'en allait. Donc le rôle de Christine Lagarde sera de recréer un consensus. Jusqu'à quel point le fait qu'il y ait une telle inquiétude sur l'état de l'économie au sein de la zone euro, avec véritablement une atonie de la croissance, est-ce que ça peut être paradoxalement pour elle un atout?
Ah, je ne suis pas sûre que ça soit un atout pour Christine Lagarde, cette situation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une situation dans la zone euro où effectivement les taux d'intérêt sont très faibles. Ils ne sont pas encore négatifs quand même pour les agents qui s'endettent pour acheter dans l'immobilier ou pour les entreprises. Hein. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là.
On est au taux négatif uniquement pour les établissements publics,
bancaires. Donc, mais effectivement, on a des taux d'intérêt qui sont très faibles aujourd'hui dans la zone euro. Et puis, on a ce manque de croissance et les indicateurs ne nous disent pas que la situation de la zone euro va s'améliorer à très court terme. Donc aujourd'hui, pour Christine Lagarde, il n'y a pas beaucoup d'outils de politique monétaire qui puissent être utilisés pour soutenir la croissance dans la zone euro, puisqu'on est vraiment dans une situation où déjà les taux d'intérêt sont faibles et il y a beaucoup de politiques monétaires non conventionnelles, d'achat d'actifs qui ont été déployées depuis plusieurs années. Et donc en fait, aujourd'hui, je dirais la balle est davantage dans le camp des État. Il faudrait qu'il y ait un soutien budgétaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux grands de politiques économiques qui peuvent être utilisées pour soutenir la croissance ou pour la freiner selon les situations conjoncturelles. L'une d'entre elles est la politique monétaire. Elle a été beaucoup utilisée par la Banque Centrale Européenne depuis plusieurs années pour soutenir la croissance dans la zone euro. Mais maintenant, il faudrait que les politiques budgétaires soient aussi un peu plus favorables à la demande. Alors là aussi, on a une division assez habituelle entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne qui est toujours un gardien de l'orthodoxie budgétaire, qui souhaite que les déficits budgétaires soient à zéro. Le fameux Schwarz Null, qui est souvent évoqué par Angela Merkel. Mais on voit bien qu'on a une situation aujourd'hui dans la zone euro avec des déficits publics qui se sont réduits un peu partout, des excédents budgétaires qui deviennent assez importants. On est pratiquement à 2% d'excédent budgétaire en Allemagne et on a un ralentissement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, de l'économie allemande. C'est important de soutenir par d'autres moyens que le moyen monétaire et en particulier par le moyen budgétaire. Et là, Christine Lagarde...
Mais là, c'est du ressort des États. Donc voilà. C'est du ressort d'un gouvernement très affaibli, qui est le gouvernement de coalition que dirige encore Mme Merkel.
Oui, alors ce qu'on peut peut-être espérer, c'est que Christine Lagarde, avec le passé qu'elle a eu en tant que ministre de l'économie et les connexions qu'elle a à l'intérieur de la zone euro...
Et cette très bonne relation personnelle, je crois, avec Mme Merkel.
Oui. Arrive à parvenir les États tels que l'Allemagne ou les États du Nord de l'Europe de façon générale à soutenir l'activité aujourd'hui, mais ça n'est pas du ressort immédiat de la Banque Centrale Européenne.
Alors, il est temps, Adam Mostafavi, bonjour, vous êtes rédactrice en chef à Courrier International, notre partenaire de nous intéresser à ce que dit la presse internationale de ces deux personnages, donc celui qui s'en va, Mario Draghi, et celle qui arrive, Christine Lagarde. Alors commençons par Super Mario.
Oui, Super Mario, c'est l'homme qui a sauvé l'euro, écrit La Repubblica, qui, vous l'imaginez bien, comme toute la presse italienne, salue le bilan de l'économiste italien, aujourd'hui âgé de 72 ans. Le quotidien de Rome, ville dont Mario Draghi est originaire, rappelle aussi un autre surnom dont le banquier et fils de banquier est affublé en Italie, c'est le Sphinx, car on ne sait jamais ce qu'il pense. Alors pour le journal, vous le rappeliez tout à l'heure, il restera l'homme qui était prêt à faire tout ce qu'il faudra pour sauver l'euro. L'économiste américain Paul Krugman le décrit dans le New York Times comme le meilleur gouverneur de banque centrale de l'histoire des temps modernes. C'était l'homme de l'unité qu'on osait critiquer qu'à demi-mot, ajoute le quotidien américain. Même si ces derniers temps, vous l'avez dit, les critiques se sont faites plus virulentes, note notamment le quotidien de la City, le Financial Times, qui explique que les derniers jours de Draghi ont été assombris par des querelles intenses. Les dernières décisions de Draghi ont provoqué des divisions au sein même de la BCE, s'inquiète le journal économique, et des tensions très fortes avec le président de la Banque centrale allemande, l'Allemagne, avec qui il aura eu une relation pour le moins contrastée, puisque à son arrivée en 2011, le tabloïd allemand Bild le montrait couronné du casque à pointe, symbole de la Prusse, parce que à l'époque, Mario Draghi vantait le modèle allemand. Aujourd'hui, le même journal Bild le qualifie de comte Draghila en l'accusant de sucer l'épargne des contribuables allemands avec sa politique. Pour le Wall Street Journal, Mario Draghi passe donc sur une note amère, l'institution étant soumise à tant de divisions internes, je cite, et de pressions extérieures que certains se demandent si elle pourra répondre à la dernière stimulation monétaire décidée par Draghi afin d'éviter la récession dans toute la zone euro.
Passons maintenant à la nouvelle présidente, Christine Lagarde.
Oui, pour
pense la presse internationale.
C'est pour le Financial Times, elle est un choix peu conventionnel à ce poste, car contrairement à ses prédécesseurs, l'ancienne avocate et ministre de 63 ans n'est pas une économiste et n'a jamais dicté de politique monétaire. Le quotidien économique la décrit même comme l'anti-Draghi. Cette fille d'enseignant, ancienne championne de natation synchronisée, a surtout été reconnue pour son calme et sa compétence dans la gestion de la crise financière en tant que ministre des Finances en France et à la tête du FMI. Où elle a succédé à Dominique Strauss-Kahn, elle a suscité l'admiration, dit le journal, grâce à ses talents diplomatiques et à sa capacité à atteindre le consensus, malgré un certain franc-parler lorsqu'elle a notamment appelé les Grecs à payer tous leurs impôts. Son approche plus conciliante pourrait apaiser les tensions au sein de la Banque centrale et avec l'Allemagne, espère le journal britannique, qui rappelle, donc vous l'avez dit, ses bonnes relations avec la chancelière allemande Angela Merkel. Le Wall Street Journal, lui, s'inquiète quand même de son absence d'expérience dans le domaine monétaire, estimant qu'il va falloir qu'elle apprenne très très vite, alors qu'elle est attendue au tournant. Pour le site américain Bloomberg, ce sont justement ses qualités différentes de Mario Draghi qui feront sa force. Elle sera celle qui cherchera des solutions diplomatiques aux problèmes. C'est aussi une femme de discipline, affirme le site, qui rappelle qu'au FMI, elle demandait aux participants des réunions de ne pas regarder leur téléphone et de limiter leurs interventions à 4 minutes. Pour le journal, cette discipline et son talent politique pourraient être cruciaux quand il s'agira de convaincre les marchés et les gouvernements nationaux.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Mathilde Lemoine, quelles devraient, selon vous, quelles devraient être les priorités à court terme de Christine Lagarde? On sait qu'elle a maintenant la cloche que Mario Draghi lui a remise, une cloche qui sert en principe, mais lui ne s'en est jamais servi, a-t-il dit, pour ramener l'ordre dans le Conseil de la Banque Centrale Européenne. Plus sérieusement, quelles devraient être ses priorités?
Alors, bien évidemment, le soutien de la croissance et le retour de l'inflation proche de 2%, on pourrait avoir un débat pour savoir s'il faut pas abaisser cet objectif d'inflation, mais je crois que ça, c'est le plus simple, et en tout cas, elle a déjà annoncé qu'elle s'inscrivait dans la lignée de Mario Draghi. Je pense pas que l'enjeu soit là. Encore une fois, il me semble que ces deux principaux enjeux sont, premièrement, d'avoir une meilleure évaluation de l'impact de sa politique monétaire, monétaire. Et là, je préciserai juste, parce que Madame Mathieu a pris soin de préciser mes propos, donc je vais repréciser les siens, c'est qu'il y a effectivement des entreprises qui empruntent à taux négatif. Donc ça a quand même un impact sur les agents économiques, et je pense que c'est bien de pouvoir l'évaluer au-delà des taux négatifs, mais aussi sur le reste. Et son deuxième grand défi pour moi va être le renforcement de la supervision européenne, puisque on parle beaucoup de la Banque Centrale Européenne, mais il faut aussi savoir que les missions de la Banque Centrale Européenne se sont largement élargies au-delà de la politique monétaire, et donc la Banque Centrale Européenne est maintenant superviseur financier. Et c'est à mon avis capital pour que justement la Banque Centrale Européenne en tant que banque centrale retrouve des marges de manœuvre. La zone euro reste très fragmentée, c'est-à-dire que si les activités des banques nationales restent nationales et par exemple les banques françaises vont détenir plus de titres français qu'avant la crise, ça empêche Christine Lagarde et le Conseil des gouverneurs de pouvoir mener une politique monétaire efficace et surtout qu'elle puisse être transmise à l'économie réelle. Et c'est là où elle a aussi un défi très important, puisque Christine Lagarde étant ancien ministre de l'économie et des finances, elle va être plus proche des États membres, de l'intergouvernemental, que du communautaire. Or, on voit bien que les banques et les gouvernements ont plutôt envie que les mécanismes de réglementaire ou de supervision restent au niveau national, qu'ils soient transférés au niveau européen. Or, à partir du moment où on a un euro et une monnaie unique, je pense que si on veut que ça fonctionne mieux, il faut absolument qu'il y ait un renforcement de la supervision financière européenne et un renforcement de l'intégration. Et malheureusement, s'il y a eu des avancées, Mario Draghi a dû batailler ferme avec les États membres qui, à chaque fois que c'est possible, essayent de reprendre un peu la main pour éviter que ce soit justement décidé au niveau européen. Et là, je crois que la stabilité de l'euro, la force de l'euro et la crédibilité de l'euro dans le monde entier en dépend. Et il me semble qu'elle devra s'attaquer à ce défi et que finalement, l'aspect de soutien macroéconomique à la croissance est assez simple relativement à celui-ci.
Et c'est bien le nœud du problème, un nœud extrêmement politique. Merci Mathilde Moine pour ces éclaircissements. Changeons maintenant de perspective avec vous, Guillaume Duval. Bonjour, je rappelle que vous êtes éditorialiste à Alternatives économiques. Et donc, ce qui vous intéresse, vous, c'est le champ économique et social. Donc, jusqu'à quel point est-ce que le rôle du banquier central de la zone euro a un impact positif ou négatif sur ces enjeux-là?
Alors, il a eu bien sûr un impact positif sur la croissance, sur le fait que la zone euro soit sortie de la récession, de la déflation. Ça a déjà été dit, mais c'est vrai que je crois que la politique menée par Mario Draghi, mais c'est pas vraiment de sa faute, a aussi concouru à développer les inégalités et à développer le populisme. Les inégalités, surtout parce que sa politique fait monter les prix des actions, fait monter les prix de l'immobilier, donc enrichit déjà les plus riches en augmentant leur patrimoine. Elle nourrit aussi la spéculation sur les marchés financiers et donc les intermédiaires financiers qui se sont remis à se payer des bonus très importants, alors que dans le même temps, comme on avait toujours cette politique budgétaire plutôt restrictive et aussi des politiques du marché du travail déflationniste, donc on voulait faire baisser le coût du travail, flexibiliser le marché du travail, etc. Donc dans le même temps où la politique monétaire était très favorable aux très riches, on compte les gens normaux et ordinaires continuent à se serrer la ceinture et en plus leur épargne, l'épargne populaire ne rapportait plus rien puisque les taux d'intérêt étaient très faibles. Donc sous cet angle-là, la politique de Mario Draghi a d'une certaine manière nourri le populisme, nourri l'euroscepticisme en Europe, et c'est vrai qu'il faudrait changer cet équilibre, donc que ce soit plutôt aujourd'hui les gouvernements qui soutiennent davantage l'activité, les politiques de marché du travail qui cessent d'être déflationnistes, qui cessent d'être centrées uniquement sur la baisse du coût du travail, pour qu'on puisse avoir une politique monétaire un peu moins favorable à la spéculation, à la hausse des cours de bourse, etc. etc.
Oui, mais je vous interromps, mais les politiques budgétaires, elles sont du ressort national. Donc, en quoi est-ce que la Banque centrale peut impulser à ce niveau-là?
Il y a un débat, il y a une discussion entre les banquiers centraux et les gouvernements nationaux. Hein. Donc Mario Draghi a déjà dit ce que je viens de vous dire, a déjà demandé aux gouvernements nationaux de le faire. Il n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'ici. On peut penser que Christine Lagarde pourrait avoir davantage de succès parce qu'elle vient justement de ce monde-là, du monde des ministres des Finances en particulier. Et elle a eu aussi un dialogue très poussé avec eux au FMI. Donc elle pourrait avoir plus de succès et d'autre part le contexte. Le texte est en train de changer sur ce plan-là. On a parlé avant de l'Allemagne, mais l'Allemagne est aujourd'hui en récession. Elle est dans une grave difficulté. Donc le fait de réussir à faire changer les politiques budgétaires, à faire changer les politiques de marché du travail, les perspectives sont sans doute meilleures que sous Draghi. Mais en tout cas, c'est vrai que ce serait nécessaire pour limiter en particulier les inégalités et limiter en même temps l'euroscepticisme.
Mais là encore, Guillaume Duval, s'agissant de l'Allemagne, dont vous êtes spécialiste, comment expliquer que les surplus budgétaires allemands ne soient pas davantage consacrés à relancer l'activité économique allemande ?
Il y a un vrai débat en Allemagne sur cette question aujourd'hui. Donc, quelqu'un a déjà parlé, je crois, du Schwarz-Null, donc le zéro noir, le fait d'avoir des budgets excédentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui remis en cause majoritairement en Allemagne. Donc il y a eu un sondage en octobre dernier qui disait est-ce qu'on doit le maintenir dans le contexte où on est. Donc 55% des Allemands disaient non, 35% disaient oui. Donc là-dessus, les Allemands sont prêts à changer, je crois. Alors après, ils sont prêts à changer à la manière des Allemands, c'est-à-dire que c'est assez lent, c'est toujours un paquebot qui tourne assez lentement, mais en même temps, une fois qu'il a commencé à tourner, il peut aller assez loin. Hein. Donc il faut se souvenir en particulier que l'Allemagne avait démarré la crise de la zone euro en disant « pas question d'aider un seul État qui a des difficultés, jamais avec nous, etc. »
Et surtout pas la Grèce.
Oui, mais ça s'est terminé quand même avec un fonds de 700 milliards d'euros pour aider les États en difficulté, plus toutes les activités de la BCE. Alors, Mario Draghi a eu des difficultés avec eux, mais Angela Merkel ne s'est jamais vraiment fâchée avec Mario Draghi. Elle a soutenu sa politique.
Et donc, on va voir ce que Christine Lagarde pourra donc accomplir avec le partenaire allemand. Merci, Guillaume Duval. Jésabelle Coupé-Souberan, on sait qu'Emmanuel Macron, dans sa stratégie européenne, a beaucoup poussé, avec une certaine déception d'ailleurs, pour qu'il y ait un budget de la zone euro. Donc, du bout des lèvres, les Allemands ont accepté le principe, mais le montant en est tout à fait ridicule par rapport aux besoins. Jusqu'à quel point est-ce que ce chantier-là devrait faire partie des priorités de Christine Lagarde, même si, encore une fois, il ne faut jamais oublier que ce sont les gouvernements nationaux qui gardent la main, encore une fois, sur leur politique budgétaire et bancaire.
Ce sera évidemment pas directement de son ressort, mais une zone euro complète serait une zone en union monétaire, en union bancaire et en union budgétaire. Lorsque l'union monétaire a débuté en 1999, on était convaincu que ça pourrait se faire sans une union bancaire. Il a fallu la crise des dettes souveraines pour qu'on se résolve à mettre en place cette union bancaire, c'est-à-dire à faire en sorte que les banques de la zone euro soient surveillées par la Banque centrale européenne, par un superviseur unique, et qu'on résolve leurs difficultés à un niveau européen et non plus à un niveau national. Cette union bancaire, elle n'est pas achevée, précisément parce que il n'y a pas encore d'union budgétaire. Et c'est ce volet-là qui manque grandement dans la zone euro pour que les États de la zone euro puissent faire face à des chocs qui ne les touchent pas de la même façon. Donc la zone euro, dans le jargon des économistes, c'est une zone monétaire qui n'est pas optimale. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, au sens où...
Oui, les économistes sont polis dans ces cas-là.
Exactement, ils sont très polis, les économistes. Et donc, si vous voulez, on manque d'instruments en zone euro pour s'ajuster à tout un ensemble de chocs. Alors, ce que va devoir obtenir Christine Lagarde à ce niveau-là, c'est au fond que tout ne repose plus dans la zone euro exclusivement sur les épaules de la Banque Centrale Européenne et faire en sorte que la politique économique ne repose plus tout entière sur la politique monétaire unique. Parce que c'est ça qui s'est passé dans la zone euro.
Mais donc c'est paradoxal. Prôner une diminution de son propre rôle.
Oui, parce que en fait, si on continue de tout concentrer sur la politique monétaire, on obtiendra de moins en moins. Ça a été dit tout au long de cette émission. Même si Mario Draghi n'a pas démérité, les effets de sa politique monétaire sur l'économie réelle ont été pour le moins mitigés et très inégaux. Et ça s'explique par le fait que, alors on n'a peut-être pas mobilisé les instruments qu'il fallait mobiliser. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais ça s'explique surtout par le fait que la politique monétaire ne peut pas toute seule. Il aurait fallu coordonner la politique monétaire et la politique budgétaire en zone euro. Il aurait fallu un vrai plan d'attaque pour soutenir l'effet accommodant de la politique monétaire. La preuve en est qu'aux États-Unis, ça a un peu mieux fonctionné. L'action monétaire a mieux fonctionné parce qu'elle a été mieux relayée par l'action budgétaire.
N'a jamais compris que la Banque fédérale américaine était indépendante de la Maison Blanche.
Effectivement, il exerce une pression qui est tout à fait intolérable.
Mais pour en revenir à l'Europe, on en est toujours au nœud du problème et de nos contradictions. C'est que tant que les États-nations, pour parler comme Jacques Delors en son temps, refusent de céder davantage de leur souveraineté s'agissant de leur politique bancaire et budgétaire, on ne voit pas comment cet assemblage peut mieux fonctionner.
Si on ne se résout pas à une union complète, à une zone euro complétée par l'union budgétaire, cette zone euro ne tiendra pas. Donc il va falloir, si vous voulez, avancer tant sur le plan de la politique monétaire que sur le plan de la politique budgétaire en zone euro. Et si vous me permettez, il y a juste un point qui est majeur et que nous n'avons pas du tout mentionné dans les défis qui attendent Christine Lagarde. C'est que elle va devoir, au fond, réinventer la politique monétaire en la repeignant également en vert. C'est-à-dire que la Banque centrale doit vraiment apporter sa pierre à l'édifice de la transition écologique. Et ça doit passer, alors pas seulement bien sûr, mais ça doit passer en partie par la politique monétaire, ça doit passer aussi par la politique budgétaire. Il faut que tout verdisse, il faut que la Banque centrale européenne s'engage à acheter des actifs verts, à conditionner davantage ces refinancements des banques à l'implication des banques dans le financement de la transition écologique. Il y a beaucoup à faire en la matière.
Catherine Mathieu, vous êtes d'accord avec cette priorité verte? Parce que là, la Banque centrale, effectivement, dans le choix des dettes qu'elle rachète ou des impulsions qu'elle donne secteur par secteur, là, elle a véritablement un rôle moteur.
Oui, tout à fait, elle a un rôle moteur, mais je pense qu'il faut quand même, comme l'a dit Jézabelle à l'instant, bien rappeler qu'il y a la question de la politique budgétaire qui est là, et que depuis la création de la zone euro, on a dit, au niveau de la zone euro pays, il ne faut absolument pas mener de politique budgétaire qui augmente les déficits, il faut réduire le niveau des dépenses publiques, et donc en particulier les dépenses qui seraient aujourd'hui des dépenses vertes, et on a dit qu'il fallait que ça s'applique à tous les pays. Et je crois qu'il faut qu'on repense ce cadre budgétaire de la zone euro, pas nécessairement en allant vers une union budgétaire, mais au moins en reconnaissant qu'il y a des différences selon les pays, des différences de besoins qui sont là, selon la situation conjoncturelle des pays, et de façon générale, effectivement, que les États puissent prendre des décisions en matière budgétaire et justement qui seraient très utiles pour la transition écologique.
Parce que les dépenses publiques... Mais ça, encore une fois, ce sont des décisions pays par pays. Il faudrait une meilleure harmonisation de ces décisions.
Une meilleure coordination des décisions budgétaires à l'échelle de la zone euro. Or, depuis la création de la zone euro, on a dit, en gros, si on peut résumer, tous les pouvoirs vont à la Banque Centrale Européenne et on lie les mains des gouvernements. Et au bout de 20 ans, on voit que ceci ne marche pas. Il faut à un moment donné redonner des marges de manœuvre aux pays pour prendre les mesures qui s'imposent.
Là se pose aussi la question de la communication, parce qu'on a beaucoup souligné la sobriété de Mario Draghi, le fait qu'il s'exprimait très peu, y compris au 40e étage de la tour à Francfort. Le tempérament de Christine Lagarde est très différent. Est-ce que vous pensez, Jezabel, qu'il faudrait une banque centrale plus explicite, enfin qui s'exprime davantage, qui communique différemment, ne serait-ce que pour améliorer le niveau de compréhension de ces sujets qui sont complexes, mais quand même vitaux pour nous tous?
Tout à fait. Il est vraiment important que la banque centrale communique ses actions. Alors, la communication, elle l'a, mais surtout vis-à-vis des marchés. Et là, la communication que vous évoquez, c'est celle, finalement, vis-à-vis des citoyens. Et il faut absolument que la Banque centrale s'adresse aux citoyens, explique son action aux citoyens. Et ça, c'est en fait la contrepartie indispensable de son indépendance. Elle gagnera en légitimité démocratique si elle parvient à s'exprimer auprès des citoyens, si elle parvient à justifier son action, à légitimer son action. Et en cela, les choses vont devoir évoluer. Il va falloir absolument que la politique monétaire se tourne vers les besoins de l'économie réelle et vers les besoins des citoyens. Et en s'engageant dans la transition écologique, ce sera une manière de le faire.
Alors, il semblerait que les rares recommandations que Mario Draghi a faites à sa successrice, même si le féminin n'est pas très heureux, c'est il ne faut pas en dire trop. Et alors, ça m'a fait penser à cette formule qu'on avait prêtée à Alan Greenspan, qui était donc un légendaire patron de la banque fédérale américaine, jusqu'au moment où on l'a quand même rendu coupable de beaucoup d'erreurs dans la gestion des subprimes. Et Greenspan disait, à qui voulait l'entendre, il disait « Si vous m'avez compris, c'est que vous êtes stupide. »
C'est que je me suis mal exprimée.
Ou c'est ce que je me suis mal exprimée. Voilà. Donc,
les temps changent.
Les temps changent. Catherine Mathieu, on arrive pratiquement à la conclusion de cette émission. Dans les outils que Mario Draghi a légués à Christine Lagarde, donc il y a toujours ce rachat des dettes. Est-ce que dans le choix des entreprises, et Mathilde Lemoine y faisait allusion tout à l'heure, elle expliquait qu'en fait, forcément, la Banque centrale n'a racheté que les dettes de très très grosses entreprises. Est-ce que ce serait, en descendant, si j'ose dire, de taille, est-ce que on peut imaginer que la Banque centrale européenne agisse au niveau des entreprises de taille moyenne qui ont souvent un rôle de stimulation du tissu économique beaucoup plus immédiat?
Je dirais tout de même qu'aujourd'hui, la situation d'emprunt pour les entreprises, de façon générale, est plutôt favorable à l'activité, favorable à l'investissement. Et donc, dans de nombreux pays, y compris en zone euro, ce qu'on voit quand même, c'est une montée de l'endettement des entreprises dans le secteur privé, de façon générale. Et pour moi, le problème aujourd'hui n'est pas de faciliter l'emprunt des entreprises, mais il est vraiment davantage de relancer la demande et la consommation. Guillaume Duval, tout à l'heure, parlait des politiques salariales. On a encore des salaires qui augmentent très faiblement dans l'Europe. On voit une montée des inégalités. Il faut agir, selon moi, davantage sur la demande. Et ensuite, cela redonnera des débouchés aux entreprises de façon générale. Donc il faut inverser la logique et se tourner du côté de la demande.
Et pour ça, Jezabel Coupet-Souberan, cette politique de la demande, encore une fois, on retombe au niveau des politiques nationales.
Alors, ça passe certes par une action budgétaire. Bien sûr que pour soutenir la demande, il faut de l'impulsion budgétaire, mais au niveau de la politique monétaire, il y a peut-être encore des choses à faire. Il y a peut-être encore des choses à faire si, par exemple, la Banque Centrale Européenne, au lieu d'acheter 20 milliards d'euros de titres par mois, les distribuer directement aux citoyens de la zone euro. C'est le fameux concept de monnaie hélicoptère. Ça viendrait directement augmenter la dépense de consommation.
Non, parce que tout à coup, on a les yeux qui brillent. 20 milliards qui tombent du ciel, distribués aux citoyens. Hélicoptère, donc ça veut dire quoi?
Ça semble un peu magique, effectivement. Ça semble un peu original comme proposition, mais l'idée, c'est que, a priori, rien n'empêche la Banque Centrale Européenne de distribuer de la monnaie centrale sous la forme, par exemple, de bons d'achat, aux citoyens de la zone euro. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose de magique. Il faudrait vraiment, si vous voulez bien réfléchir au design, faire en sorte que ce bon d'achat soit effectivement dépensé, qu'il soit dépensé dans des produits plutôt fabriqués en grande partie par des producteurs nationaux, que ça parte pas dans des produits polluants, sinon ça irait justement complètement à l'encontre de la transition écologique que l'on souhaite. Donc il faut réfléchir au design de cela, mais cette idée de quantitative easing for people, d'accord, un quantitative easing pour les citoyens, c'est tout à fait envisageable. C'est pas une panacée parce que ça soutiendrait uniquement le moteur de la consommation. Or, ce qu'il faut également, c'est allumer le moteur de l'investissement. Et c'est ça que la politique monétaire de la zone euro n'est pas parvenue à rallumer vraiment. Alors, le moteur de l'investissement, eh bien, ça passera justement par une action engagée de la Banque Centrale Européenne dans la transition écologique et par un vrai plan d'action budgétaire émanant des pays de la zone euro et coordonné au niveau européen.
Mais Isabelle, ce que vous proposez, c'est exactement une politique budgétaire. En fait, on peut tout à fait faire ça de façon... C'est une politique budgétaire et votre proposition revient à contourner justement toutes les contraintes qu'on s'est fixées à l'intérieur de la zone euro en disant on ne peut pas mener de politique budgétaire et on dit que la politique monétaire doit faire cela, mais c'est une politique budgétaire dont vous parlez.
Ça ne coûtera pas un euro de fonds publics. Donc c'est pas du budgétaire, c'est du monétaire, c'est de l'audace monétaire. Il faudrait que Christine Lagarde en ait.
Eh bien, espérons que Christine Lagarde tienne bon compte de ses remarques et de ses analyses. Merci donc à vous toutes, tant nous avons été nombreuses, tant de voix féminines dans cette émission. Donc merci à vous, Isabelle Coupet-Souberan. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère éditoriale au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, spécialiste en particulier du Brexit, mais ce sera pour une autre fois parce que là aussi, quelle salmigondie. Merci à Mathilde Moine, professeure à Sciences Po Paris, chef économiste au groupe Edmond de Rothschild. Guillaume Duval, éditorialiste à Alternatives économiques, conseiller au Conseil économique, social et environnemental. Guillaume, vous avez écrit « Trump, Poutine, Orban, Salvini, le Brexit, une chance pour l'Europe » aux éditions Petit Matin cette année. Merci enfin à Georges Papakonstantinou, qui est aujourd'hui professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Amda Mostafavi signait ce matin la chronique de Courrier International. À la réalisation, Gilles Blanchard. À la technique, Anthony Thomasson. Hugo Boursier a préparé cette émission et prépare d'ailleurs la prochaine, samedi prochain. Et comme chaque samedi, vous avez maintenant rendez-vous avec Hervé Gardette. Passez un très bon week-end.